C'est Paul qui parle de ça. Pourtant, vous savez que souvent, on parle de Paul comme quelqu'un qui est, enfin, je ne dirais pas un intellectuel. Enfin, si, il était un intellectuel, mais voilà, hein, rationnel, cartésien. Paul, ce n'est pas, c'est pas Saint-François d'Assise, quoi. Hein. Mais quand on lit tout bien comme il faut, et même ce qu'il dit, c'est quand même assez surprenant des fois. Et à un moment, alors qu'il est attaqué dans son ministère, et je trouve amusant cette façon, je ne sais pas si c'était culturel à l'époque, que Paul a de dire des choses en nous disant qu'il ne va pas nous les dire, mais de nous les dire. Hein, vous voyez un peu ce que je veux dire, hein. C'est sûrement quelque chose de juif, parce que je parlais de ça avec, dans la façon de réfléchir. Et mon fils qui me disait, j'avais acheté quelque chose, il me dit, ah mais combien ça coûte, je te le rembourse. Puis je dis, non, on va faire comme Abraham quand il veut acheter le champ pour enterrer sa femme. Hein. Et que l'autre, il dit, non, je ne veux pas te le vendre, tiens un ami, je te le donne. Il insiste, non, je ne veux pas te le vendre. Qu'est-ce que c'est qu'un champ de 50 000 francs entre toi et moi? Et Abraham lui content 50 000 francs. Hein, voilà. Cette façon de faire. Et là, Paul, donc, on l'accuse de ne pas être un apôtre, de ne pas être un vrai. Il n'a pas vu Jésus, il ne les a pas connus. C'est un faux, quoi. Hein. Et donc, à l'épître aux Corinthiens, il dit, 2 Corinthiens 12, 1. Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables, ou littéralement ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Je trouvais ce texte intéressant pour plein de raisons. Hein. Déjà, il dit, je ne vais pas vous dire que, mais il dit. Et puis, franchement, alors oui, on va vous dire, Paul, c'était Paul, d'accord. Mais si aujourd'hui un prédicateur venait vous dire, j'ai été ravi au troisième ciel, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de mon corps. Je pense qu'on le brûle de suite, hein. Voyage hors de son corps, voyage astral, ésotérisme, machin truc et tout. C'est quoi ce machin bizarre? Paul, le cartésien, Paul, enfin, il était pas c'était bien avant Descartes, lui aussi. Hein. Mais voilà, le rationnel, à la fois ce mélange de deux cultures, du grec rationnel et... voilà. J'ai été ravi au troisième ciel, je ne sais même pas si c'était dans mon corps ou pas dans mon corps. Hein, qu'est-ce qu'il avait mangé avant, on ne sait pas. Mais voilà, et il dit, j'ai entendu des choses qui sont ineffables. J'aime mieux ineffable, c'est un vieux mot, mais que inexprimable, parce que inexprimable, on dirait, ouais, j'ai du mal à le dire, quoi. Ineffable, c'est qu'on ne peut pas les dire. Hein. Et ça nous amène à un lien, c'est un ami avec qui je corresponds beaucoup sur le thème de la vie intérieure et qui m'envoie des lectures, on fait des échanges, et qui faisait ce lien entre l'émerveillement et le mystère. Et c'est ce que j'aimerais essayer d'aborder ce matin. Et c'est pour ça que ce n'est pas tout simple, puisqu'on va essayer de réfléchir et, de, pour ma part, de parler sur des choses dont on ne peut pas parler, pas parce que c'est interdit, mais parce qu'il n'y a pas tellement de mots pour le dire. Et alors là, ben, on a tous nos handicaps et nos facilités. Ben, les poètes ont un petit avantage, hein, parce que c'est plus facile. Francis Cabrel a dit, il y a des moments tellement beaux, il n'y a que le silence pour les dire. On est dans cette idée-là, donc bah, c'est peut-être plus difficile pour certaines personnalités. C'est un peu comme si moi, vous allez m'expliquer une illustration, puisque Dieu a aussi créé les mathématiques, je le sais. Hein, avec des mathématiques et un tableau Excel, j'aurais peut-être plus de mal à la comprendre, mais voilà. Je prenais un premier court texte dans Juges 13:7, c'est l'ange de l'Éternel, donc beaucoup l'assimilent avec le Christ préincarné, mais peu importe, c'est l'ange de l'Éternel en tout cas, qui vient visiter le couple qui va devenir les parents de Samson dans la période des juges, période troublée où chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux. Hein. Et il vient et puis il dit à cette dame, ben voilà, t'es stérile, c'est un peu un classique dans la Bible, hein, on dirait que Dieu aime ça. D'abord rendre les gens stériles pour après leur faire porter du fruit. Il y a peut-être aussi quelque chose à creuser là. Et tu vas avoir un enfant, etc. Et là, le mari, quand la femme vient lui dire ça, ouais, mais c'est quoi, c'est qui? Encore un machin bizarre. Hein. Vous savez que la Bible est pleine de trucs bizarres quand même. Hein. Ces gens qui entendent des anges qui leur parlent, voilà. Et donc lui, qui est plus rationnel, il se dit, ben, il faut que je le rencontre. Alors l'ange est sympa, il vient à un deuxième rendez-vous, hein, il a droit à une autre consultation. Et puis Manoas, donc c'est le monsieur, dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Hein? Ça, c'est une réaction très cartésienne. T'es qui, t'es quoi, c'est quoi, hein? C'était aussi Moïse, mais t'es qui, hein? Les réponses sont souvent peu satisfaisantes. À Moïse, c'était « je suis ». Et vous avez peut-être lu ou pas, mais vous avez reçu la pensée du moi sur le présent et être présent au présent. Hein. Je suis toujours dans cette continuité de ce thème. Et donc là, ce monsieur, ben, il est aussi dans sa... Mais tu es qui ? Attends, c'est quoi ? Tu viens, tu parles à ma femme, tu annonces des miracles, tu es qui ? Bon, bonne intention hein, pour qu'on t'offre un sacrifice, mais enfin, on veut savoir qui tu es. Et la réponse est incroyable. Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. D'accord. Hein? C'est une de ces réponses, comme quand Josué dit à l'ange de l'Éternel, hein, « Es-tu pour nous ou contre nous ?» Non. Oui. Hein? C'est intéressant, la Bible, quand même. Hein, comme nous, qui on voulait des réponses claires. Quoi, hein. Après les réponses, c'est plus compliqué qu'avant d'avoir posé la question. « Pourquoi me demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Et quand on parle du merveilleux et de l'émerveillement, alors je sais que là aussi, ben, on n'est pas tous égaux, comme dans rien, ça n'existe pas l'égalité d'ailleurs, même pas l'équité. Il y a des gens qui vont rencontrer l'émerveillement partout, puis il y a des gens qui ont du mal à le voir. Hein, et ce n'est pas une critique, on est né comme on est, et puis on peut travailler les choses, mais voilà. Mais l'émerveillement, c'est justement cette capacité que Dieu nous a donnée à comprendre qu'une chose est réelle alors qu'elle nous est d'une certaine façon inaccessible dans sa plénitude. Mais elle est là dans sa présence. Et c'est quelque chose qui est... C'est pour ça que je dis que ce n'est pas facile d'en parler. Hein. Mais je pense que quand même, la plupart des enfants ont cette chose-là assez naturellement. Hein. Et moi, je l'ai rapproché de ce texte quand on amène Jésus les enfants... Et puis qui leur dit, non, mais ne les faites pas partir, venez, il faut que vous leur ressembliez. C'est repris dans trois des évangiles. Et puis il leur dit, mais vous savez, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour ces petits. Et là, quand il dit des petits, ce n'est pas juste les pauvres ou les faibles, des fois oui, hein. Il entraîne dans le contexte de parler des enfants. Parce que je vous le dis, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Encore une de ces phrases. Les anges, ça fait peur, c'est quoi ce truc ? Mais de quoi Jésus est en train de parler là ? Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses dans l'enfance qui sont des belles images de notre relation à Dieu. Il y a aussi des textes qui nous disent qu'il ne faut pas être que des enfants hein, dans la connaissance. Hein. Paul, à la fin d'un Corinthiens 13, dit « ne soyez plus des enfants, soyez des adultes ». Donc il faut chaque image à sa place. Mais là, leurs anges voient continuellement la face de Dieu. En fait, dans l'émerveillement, on discerne ce qu'il y a derrière quelque chose. C'est en fait, c'est pour ça que je dis les poètes ont un avantage, c'est le principe de la poésie. C'est qu'en fait, pour parler de quelque chose qui est abstrait, on va dépeindre une poésie. Quand je dis poésie, je ne parle pas d'écrire des poèmes. Hein. C'est tout ce qui est la compréhension poétique des choses. Hein. C'est par l'image, c'est par le son, c'est par un truc qu'on voit, un paysage, un animal, peu importe, quelque chose qui nous touche. Mais il y a une image que nos sens, j'allais dire rationnels, peuvent saisir par l'ouïe, par la vue, par le goût probablement aussi, par le toucher. Et cette image suggère que derrière, il y a une réalité qui a une attache en nous, mais on ne sait pas trop par où. Hein. Et on a un très très beau verset qui parle de ce choc des choses, ou de cette tension, comme on veut. Hein. Ecclésiaste 3, 11. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, il a même, il dit, il a ancré, littéralement, dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien qu'il ne puisse comprendre l'œuvre de Dieu du commencement à la fin. Et ça, c'est, les humains sont comme ça, tous, hein, parce que c'est Dieu qui nous a fait comme ça et on se le transmet. Alors, avec des perceptions, ou parce que ben, des fois, on se protège, on se barricade, on s'enferme, on ne prend pas le temps, on n'est pas présent, etc., etc. Mais au fond de nous, il y a cette espèce de paradoxe. On sait qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. quand quelque chose nous le suggère, que c'est là qu'il y a cette présence, on en est bouleversé, mais on ne peut pas le dire ou l'expliquer réellement. Alors, on utilise des images. Dans l'atelier d'écriture qu'on a eu pour expliquer un petit peu l'idée des métaphores, je parlais de ce texte qui est un des textes qui m'a aidé à comprendre justement ce principe de la poésie quand j'étais adolescent, dans lequel Francis Cabrel décrit une ville balnéaire hors saison. Et moi, j'habite à un quart d'heure dans le sud de la France, de la Grande Motte, qui est une ville, surtout à cette époque-là, maintenant c'est un peu différent, qui était surpeuplée pendant 3 mois et qui, l'hiver, il y a 500 habitants, quoi. Puis il y en a 10 000 l'été ou plus, je ne sais pas, les chiffres. Et ça m'est quand même arrivé de la traverser en hiver et de voir tous ces rideaux descendus, des feuilles partout, le courrier dans les boîtes aux lettres. Et donc Francis Cabrel, pendant toute sa chanson, qui s'appelle Hors saison, nous décrit une ville balnéaire hors saison. Alors on entend le bruit de l'océan et les rideaux sont baissés, le courrier déborde dans les pavillons, et peut-être un jour des gens reviendront. Moi, cette image-là, elle était tellement forte parce que j'ai vécu ça, je connais. Et puis à la fin, après 4 minutes où il décrit ça, il dit « Tout mon courrier déborde au seuil de ton pavillon, on doit être hors saison. » Et en 3 mots, il parle d'une relation avec quelqu'un on est hors saison en ce moment. Et c'est tellement plus fort que s'il avait écrit tout un livre sur pourquoi notre relation en ce moment, il me semble, c'est un petit peu tendu entre nous, parce que il développe cette image, et d'un coup derrière, et ce qui fait que c'est devenu un chanteur très populaire, c'est qu'en fait tout le monde derrière cette image y accroche quelque chose. Et si on pouvait, c'est pas possible, projeter ce que ça nous dit, ça serait très différent. Mais en même temps, c'est intemporel et c'est lié à cette éternité, aux besoins vitaux qu'il y a dans l'homme d'aimer, d'être aimé, d'être accepté, d'être compris. Enfin, les quelques besoins de base, au-delà de manger, dormir et avoir un toit, que tous les humains ont, qui se manifestent de façon tellement différente, mais qu'on va rechercher. Et en fait, on voit comment l'émerveillement est lié au mystère. Parce qu'en fait, c'est cette part de incompréhensible, mais pourtant je sais que c'est là, qui fait que. Et je me suis longtemps demandé, alors moi je suis sensible à ça, tout le monde ne l'est pas, mais quand j'ai le privilège, ça m'arrive quand même assez souvent dans cette belle région, de marcher et de voir un animal sauvage. Je ne sais pas, les animaux domestiques, c'est autre chose. Mais un animal sauvage, qui soit un grand ou un petit, et dernièrement je suis tombé sur 3 lièvres. En plus, je ne sais pas pourquoi, au lieu de partir, ils couraient dans tous les sens devant moi, j'étais à pied, sans chien. De voir ces animaux, et ça m'émeut profondément. Puis je me dis, mais t'es quand même idiot, c'est des lièvres, quoi. C'est des bestioles, ça se mange, il y en a qui... Non, mais j'étais bouleversé pendant un moment, alors si en plus c'est un chevreuil, ou encore mieux, un chamois, ou je sais pas, enfin, le lynx, j'ai jamais vu, le loup non plus, j'espère, un jour. Mais pourquoi ça nous fait ça? C'est les animaux, voilà, c'est comme il y a les chiens, il y a les chats... On peut être touché par un chien et un chat d'ailleurs aussi. Mais c'est juste parce qu'en fait, derrière ça, ça nous rappelle que, le créateur derrière la création, on le sait, mais cette présence qui est là, qui à la fois est un mystère, mais en même temps, on en est sûr. Et pour revenir à Paul, pour pas que ça ait l'air quand même juste le discours un peu perdu d'un poète qui a mangé du space cake hier soir, ce qui n'est pas le cas. Dans le psaume 139, qui décrit l'être humain vu par Dieu, qui sait tout sur nous, tu sais quand je me lève, quand je m'assieds, quand je me couche, la parole n'est pas sur ma bouche, que déjà tu la connais, tu m'entoures par devant, par derrière, si je vais aux cieux, tu y es, je me couche en enfer, tu y vois là, je prends les ailes de l'aurore, je vais de l'autre côté de la mer, et tu es là aussi. Enfin, le poète est là, il est waouh, il décrit ça, on sent que ça boue, comme du bicarbonate quand on mélange avec du vinaigre, quoi. Ça fait des bulles et ça monte, et puis d'un coup il dit... Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Mais il vient de nous en parler. Mais en fait, il sait qu'il nous en a, il nous a dit la partie visible un petit peu, et le mystère et l'abondance de vie et de présence derrière le met dans un état tel qu'il continue en disant « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Il faut arriver à le dire, un truc pareil. Mais il est complètement bouleversé par cette présence pure qui se trouve derrière ce mystère de la grandeur de Dieu, de sa toute science, de sa toute puissance, de ça, et qui en même temps est celui qui est là et qui est le plus proche de moi que puisse être quoi que ce soit ou qui que ce soit sur Terre, et qui connaît tout, et puis qui connaît que moi, et puis qui aime tout le monde, mais que je suis son préféré, et tous ces paradoxes-là qui sont là, et qui, derrière quelque chose qui paraît mystérieux, se cache cette présence. Et c'est magnifique. Et Paul dit, en parlant de son ministère, là aussi, mais dans Colossiens cette fois, Colossiens 1, 25, c'est d'elle, cette parole, que je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la pensée de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, parmi les non-juifs comme parmi les juifs, c'est-à-dire... Et il ne dit pas « mon enseignement, ma doctrine, la vérité, Christ en vous, l'espérance de la gloire. » En fait, cette réalité derrière toutes ces choses qui nous émerveillent et qui font qu'on a cette nostalgie de ce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais qu'on sait que c'est là qu'on est chez nous. Hein. Moi, j'avais l'habitude d'appeler ça la nostalgie du futur. Parce que c'est cette nostalgie du paradis perdu, mais qui, en fait, il est devant nous, il n'est plus derrière. Donc, c'est une nostalgie qui fait qu'on ne va jamais être pleinement satisfait si on est honnête sur Terre, mais qui nous tire vers l'avant, parce qu'il y a ça. Mais en fait, je suis en train de réviser mon expression. C'est la nostalgie, pas du futur, du présent éternel. Puisque le futur et le passé, c'est juste pour nous qui sommes englués dans le temps, hein, mais c'est notre réalité. Et Paul dit, en fait, cette chose-là, hein, c'est pour ça que Paul n'a aucun problème à utiliser, quand il est dans un contexte culturel qui le permet, hein, à Athènes, des poètes grecs qui ne sont pas du tout des chrétiens, qui n'ont pas lu l'Ancien Testament, hein, mais qui eux-mêmes évoquent cette chose-là. Hein, il a mis en nous le mouvement et l'être. Hein, et celui que vous cherchez sans savoir qui il est, comment? Mais ce n'est pas possible. Non, c'est son nom, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est... Yahweh, machin truc. Non, c'est cette présence pure et invisible qui, derrière l'émerveillement dans le mystère, fait que tous les êtres humains, ça c'est l'Épître aux Romains, Paul le dit aussi, hein, quand des gens qui n'ont aucune connaissance de la Bible, de l'Ancien Testament, se lèvent et voient la création, la nature, les choses, ils se disent dans leur cœur, il y a quelque chose là derrière. Et c'est ce mystère-là qu'on cherche. Hein. Et ce que je trouve tellement triste, c'est que pour nous qui avons, on va dire, des signes indicateurs précis pour pointer vers cette présence, on est souvent devenus, comme je le dis dans ma pensée du moi, des collectionneurs et des adorateurs des signes indicateurs, qui sont importants, parce que si je ne les ai pas, et que c'est mieux de les avoir. Mais en réalité, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Ce qui compte, c'est d'aller vers, de chercher, de tendre vers. Hein. Paul dit, pourtant Paul ne doutait pas de l'existence de Dieu, toutes ces choses-là, hein, mais il dit, je n'ai pas atteint le but, et je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers ce qui est devant, hein, pour essayer de le saisir, hein, ça y est, très bien, car j'ai été saisi par Jésus-Christ. En fait, j'ai du mal de nos jours avec le mot chrétien, parce que tout le monde se dit chrétien, quoi, hein, surtout les gens qui tapent sur les autres. Mais un chrétien, un disciple du Christ, c'est quelqu'un qui a été saisi par Jésus-Christ, par ce mystère qu'il a pris au cœur, et qui fait que quelqu'un comme Pierre, qui n'avait rien compris, comme tout le monde à son époque, mais il ne comprenait pas ce qui c'était, il avait une idée fausse du Christ, etc. Mais quand Jésus lui dit « Vous ne voulez pas partir ?» Non. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il ne faisait pas référence à de la doctrine à ce moment-là. C'est ça. J'ai vu derrière le mystère cette présence-là. Il est dit que Jésus, quand il n'enseignait pas comme les pharisiens, il enseignait avec autorité. Ce n'est pas parce qu'il parlait plus fort, ce n'est pas parce qu'il tapait sur la table, ce n'est pas parce qu'il disait « Moi, je sais, j'ai raison, je vais vous dire !» Non. C'est qu'en fait, quand il parlait, le mystère de cette présence était partiellement dévoilé. D'ailleurs, vous savez que parmi les très, 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 très beaux verbes du Nouveau Testament, il y a ce mot manifester, hein, qui veut dire soulever un voile sur quelque chose qui était déjà là, mais qu'on ne pouvait pas voir parce que c'était caché. Christ est venu nous dévoiler le Père, pas nous le tout faire comprendre. Hein. Quand Philippe dit, mais on ne sait pas où tu vas, et tu nous dis que tu vas partir, et l'avantageux pour vous que je m'en aille, hein, mais tu vas où? Pierre dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Ben non, on n'a rien vu. Oui, mais voilà, derrière, hein, dans ce mystère-là, parce que qui peut comprendre ce mystère? La Trinité, le Père, le Fils, c'est... Et pourtant, quand on est touché par cette réalité au travers d'images, hein, y a ce... Hein, voilà. Ce qu'ont vécu les pèlerins, ce qu'on appelle ces fameux pèlerins sur le chemin d'Emmaüs, ces disciples totalement désabusés, découragés, on n'a rien compris, il est mort, c'est la fin de tout, voilà, on s'est planté du début à la fin, on a perdu 3 ans de nos vies, c'est catastrophe complète. En plus, maintenant, on est en danger. Hein, et puis, ils s'en vont. Et Jésus chemine avec eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Dans ce mystère-là, pourquoi on ne reconnaît pas Jésus après sa résurrection? Mystère. Il marche avec eux, il les écoute, il leur pose des questions selon son habitude, et puis il part des signes indicateurs qu'ils ont, des poteaux. Hein. À travers les Écritures, dont l'Ancien Testament, le Nouveau n'était pas écrit, il leur révéla tout ce qui le concernait. Et puis ils n'ont toujours pas compris, parce qu'intellectuellement, ouais, ça bug. Il s'assoit, partage le pain, il disparaît, et quand il n'est plus là, bien sûr, mais c'est bien vrai, c'est lui. Notre cœur ne bouillonnait-il pas en dedans pendant que nous marchions avec lui? Moi, je ne sais pas pour vous, mais peut-être parce que je vieillis, hein, mais voilà. Si ce n'est pas pour ça, je n'ai plus vraiment envie de continuer. Je fais quoi sur terre? Je travaille pour manger, je mange pour travailler, je répare ma maison pour qu'elle m'abrite, elle m'abrite. Pour... Oui, alors les enfants, c'est cool, des fois, les petits-enfants, c'est cool, quand ils arrivent et quand ils partent. Voilà. Mais honnêtement, si on regarde aussi l'état du monde dans lequel on vit, tout ça, on a essayé d'aborder ça, on va se... Ouais, je ne dis pas qu'on va se pendre, mais enfin, voilà. Mais il y a ça. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Et ça, par contre, cette partie-là, je ne sais pas si elle est générale, hein, mais pour moi, ce que j'ai découvert maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, c'est que la plupart des choses qui font que ma vie a du sens aujourd'hui, que j'essaie de découvrir un petit peu, je les avais compris sans les comprendre quand j'étais enfant. Et maintenant, je les redécouvre. Et c'est pour ça que j'ai fait ce lien avec ce texte, mais... ces petits dont les anges voient sans arrêt là. Parce que les enfants ont encore cette spontanéité ou cette bonne naïveté, parce que dans certaines choses, c'est pas bien, qui fait que derrière ce mystère, ils voient la présence. Et en fait, ce qui change les choses, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ou non? Parce que ça change tout. 1 Corinthiens 2:6, toujours Paul. Vous avez vu, pour parler de ce sujet-là, j'ai presque les textes de Paul, c'est incroyable, hein, comme ça. Or, nous parlons d'une sagesse parmi vous, il est parfait, ceux qui sont dans ce chemin, hein, parce que j'ai pris une traduction de Darby, mais voilà. Sagesse toutefois non pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui s'en vont, mais nous parlons de la sagesse de Dieu en mystère. Et pourquoi il en parle en mystère? Un gars aussi intelligent que lui, avec la culture qu'il a, bon sang, mais fais-nous un recueil de théologie systématique qu'on arrête, et on aurait évité 2000 ans de guerre chez les chrétiens pour des détails théologiques. Quoi. C'était pas compliqué pour Dieu de nous écrire un traité de théologie systématique. Est-ce qu'il est incapable de faire ça? Il nous a mis de la poésie, il nous a mis de l'histoire, il nous a mis des lettres, il nous a mis des conseils, il nous a mis des tas de choses, et il nous a pas donné ça. Ben, peut-être parce que c'est pas de ça qu'on avait besoin. Et je dis pas que c'est inutile, hein. Attention, c'est notre sujet. Plus la carte est bonne, plus normalement on a de possibilités de trouver la bonne direction. Donc il faut une bonne carte. Mais on n'est pas des collectionneurs de signes ou de cartes. Et c'est pour ça que Paul dit, ben, cette chose que les gens, et là il parle à des païens, hein, en fait, des gens qui ne sont pas de culture juive, c'est ça un païen, et il dit, ben, en fait Dieu nous l'a révélé par mystère. Parce que les Grecs veulent de la sagesse et les Juifs veulent des miracles. Mais moi je vous parle d'autre chose. Le mystère de la présence de je suis qui est là derrière tout, et il faut juste qu'on le voit. Donc nous parlons de la sagesse de Dieu, un mystère, sagesse cachée, laquelle Dieu avait préparée d'avance pour notre gloire, celle qu'aucun des grands de ce siècle n'a connue, parce que s'il avait connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire, mais selon qu'il est écrit, là ici c'est l'Ancien Testament, hein, ce que l'œil n'a pas vu, j'aime trop ce texte, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. C'est-à-dire ces choses qu'on ne peut pas imaginer parce qu'elles sont inimaginables. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par son esprit. Car l'esprit sont de toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Car qui des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, hein, dit en langage courant. Ben, qui peut savoir ce que David pense en ce moment à part David? Qui peut savoir ce que chacun pense en ce moment à part lui, hein? Ainsi, personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que derrière cet émerveillement se cache le mystère, et derrière ce mystère, il y a la présence de Christ, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Hein? Espérance, pourquoi? Pas parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on l'a. On ne peut pas la comprendre du début à la fin, Ecclésiastes 3.11. On en touche une partie. Hein. Comme la fourmi qui voit passer l'éléphant à son niveau, elle peut même monter sur son sabot et descendre. C'est grand, c'est immense. Elle n'a pas le recul pour voir l'éléphant. Il faudrait qu'elle ait un petit drone et qu'elle monte très haut. Et... c'est ça, un éléphant. Sauf que Dieu est plus grand qu'un éléphant et nous plus petits qu'une fourmi. Hein. Et cet émerveillement derrière mais nous amène à quelque chose qui n'est pas... On n'est pas dans l'émotionnel parce qu'il y avait trois accords mineurs et j'ai les poils du dos qui se dressent. C'est une présence réelle. C'est la présence de Dieu. Et là, on utilise des mots qui... tous les fusibles fondent. Hein, mais qui, par son esprit, vit en nous. Et il y a cette connexion incroyable qui peut se vivre qu'au présent. Et que ces moments d'émerveillement derrière le mystère nous permettent d'expérimenter. Et en fait... nos vies, elles servent à ça. Bah après, il y a le décor. Hein, c'est comme voilà, dans une voiture, il n'y a pas que le moteur, il y a aussi la carrosserie, les roues, le machin, le truc. Et tout doit fonctionner ensemble. On a un corps, on doit en prendre soin, on a des responsabilités. Mais derrière tout ça, c'est de ça qu'on a besoin. Et en fait, les moments dans nos vies où ça devient terrible, c'est les moments où on a perdu ça de vue. Ce n'est pas que ce n'est plus là, hein, mais le voile pour nous est retombé. Il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus d'émerveillement, il n'y a plus que ce que je vois. Alors des fois, ce que je vois, ce n'est pas pire, parce qu'il y a des petits moments dans nos vies où ça peut aller, c'est cool. Souvent, ce n'est pas génial, des fois c'est catastrophique, ça dépend où on est, qui on vit, ce qu'on vit. Hein. Mais il y a ça qui est là, quoi. Ces choses que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparées pour nous. Colossiens 2, je veux que vous sachiez combien est grand, toujours Paul, hein. Une lettre, le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée, etc., afin qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour... Pourquoi ? Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En fait, nous, on voudrait avoir la sagesse, la science, la connaissance... qui n'est pas du tout mauvaise, Dieu nous a demandé de réfléchir. Hein. Mais c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est en Christ que toutes ces choses-là se trouvent, mais quand je dis Christ, ce n'est pas le personnage historique. C'est pour ça que Paul dit, si quelqu'un a connu Christ selon la chair, c'est-à-dire s'il fait partie de ces gens, parce qu'à son époque, il y en avait encore, hein, qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui ont mangé avec lui, ils ne le connaissent pas plus que moi, ou pas moins. Et c'est pour ça qu'il se permet de dire, je connais un homme, je ne voudrais pas en parler, mais quand même, il faut que j'en parle. Dans son corps, hors de son corps, j'en sais rien. Il a vu Christ, enfin, un petit bout, on a soulevé un petit peu le voile. Hein, et il a entendu des choses qu'on ne peut pas dire. Parce qu'il y a des moments tellement forts, il n'y a que le silence pour les dire. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand quelqu'un, un être humain, qui vit ça, hein, ce petit voile qui se découvre derrière l'émerveillement, puis derrière le mystère, et il aperçoit un petit bout de cette éternité, de ce présent éternel, il en est bouleversé, il n'a pas de mots pour le dire, mais quand il rencontre quelqu'un qui a déjà lui aussi soulevé le voile, tout d'un coup, c'est pouf, comme David et Jonathan. Et l'âme de l'un s'attacha à l'autre. Et non, ce n'était pas un couple gay dans la Bible. Ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. C'était, en fait, ces deux personnages dans l'Ancien Testament qui avaient une vie réelle avec Dieu et qui ont aperçu cette chose-là. Et pourtant, autant l'un que l'autre, ils étaient loin d'être parfaits. Hein. Et moins le deuxième que le premier, en plus. Mais bon, peu importe. Mais à un moment, il y a eu cette connexion surnaturelle. C'est ce qui fait que... C'est ça, la communion des saints. Hein. Ce n'est pas un truc bizarre. C'est qu'en fait, tous ceux qui ont vu, à un moment dans leur vie, c'est-à-dire beaucoup de monde, heureusement, hein, entreaperçu, on devrait dire, même de saluer de loin, Paul dit aussi, hein, sans l'avoir atteint, mais c'était là. Ça suffit. Hein. Comme dit mon autre poète préféré, j'ai beaucoup de poètes préférés, hein, mais Christian Bobin, entre ma mort et moi, une simple cloison de papier, je t'entends marcher de l'autre côté. Ça change tout. Si quelqu'un marche de l'autre côté, que j'entends, que je n'ai pas vu, ou s'il n'y a plus personne qui marche. Hein. J'avais d'autres textes, mais je les laisse tomber. Et je veux juste terminer avec un passage de ma deuxième Bible. Non, je vais me faire brûler. Hein. Mais parce que, ben, en fait, quand j'ai lu ce livre, j'ai vu une pièce de théâtre à 11 ans de ce Petit Prince. Et c'est quelque chose, je crois que c'est l'événement qui a le plus bouleversé ma vie. Et j'étais incapable de dire pourquoi. Je suis rentré, je pleurais, mais pleurais de joie. Ma mère ne comprenait pas ce qui se passait. J'avais à peu près rien compris à l'histoire, sauf que j'étais bouleversé. Et ensuite, j'ai lu ce livre une à deux, trois, des fois quatre fois par an, toute ma vie. Et j'étais tout le temps aussi bouleversé, tout simplement parce qu'en fait... longtemps après, j'ai étudié les signes indicateurs dans la Bible, j'ai compris pourquoi. Mais en fait, c'est un livre qui, pour moi, derrière les images, m'a fait toucher à ces choses-là avant que je les comprenne. Et après, j'ai appris, pas à les comprendre, mais à savoir un peu pourquoi ça me touchait. Quoi. Donc, vous savez l'histoire, le petit prince qui est venu là, il doit repartir, mais pour repartir sur sa planète, il doit laisser son corps, donc il doit mourir. Hein. Et puis l'aviateur qui est devenu son ami est tout triste. Et puis, le petit prince lui dit, mais il ne faut pas être triste parce que je ne serai pas mort, je serai juste ailleurs, et puis voilà quoi. Et puis il lui dit, je vais te faire un cadeau. Parce qu'en fait, dans le livre, tout le temps, le petit prince rit, et l'autre dit, on dirait des grelots quand tu ris. Et puis il lui dit, quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, des étoiles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Puis après ça, le petit prince se fait piquer par le serpent, il part, pour finalement, on ne retrouve plus son corps, alors peut-être qu'il l'a emporté. Était-ce dans son corps ou en de son corps? Je ne sais. Et puis, quelques temps après, l'aviateur qui avait dessiné donc, le mouton avec, pour qu'il emporte sur sa planète, réalise qu'il a oublié de dessiner la courroie pour fermer la muselière. Et donc, c'est possible que le mouton ait mangé la rose. Et il est là en train de regarder le ciel, et dans le ciel, il y a les étoiles, dans une des étoiles, il y a le petit prince, et là, voilà, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt, je me dis sûrement non, le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre, et il surveille bien son mouton. Alors, je suis heureux, et toutes les étoiles rient doucement. Puis tantôt, je me dis, on est distrait une fois ou l'autre, ça suffit. Il a oublié un soir le globe de terre, de verre. Ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit. Alors, les grelots se changent tous en larmes. C'est un bien grand mystère pour vous qui aimez aussi le plus petit prince. Comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas « Ah oui ou non, manger une rose ?»« Regardez le ciel, demandez-vous. Le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur ?» Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Je vais quand même pas pleurer, non ? Non, je vais y arriver. Hein ? Mais c'est ça, s'il n'y a rien derrière, on fait quoi ? C'est terrible. Christ est-il là ? Alors, les étoiles rient, alors tout chante, alors tout danse, alors tout... Oui, le monde est toujours horrible, méchant, difficile, j'ai toujours mal au dos, aux pieds, à l'épaule, au machin et tout, mais c'est pas grave. Hein. Mais s'il n'est pas là, alors tout change. Et en fait, on est appelé à être des témoins. On n'est pas des vendeurs, on n'est pas des convertisseurs, on n'est pas des persuadeurs. Christ nous a dit, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, qui convainc les gens. Mais nous, on doit être des témoins. De quoi suis-je témoin si j'ai rien vu ? Et je ne peux pas témoigner que j'ai tout compris, je ne peux pas témoigner que je sais tout, je ne peux pas témoigner que j'ai la vérité, je peux juste dire les signes indicateurs, parce qu'il nous en a donné, et les plus clairs sont dans ce qu'on appelle la Bible, effectivement, il y en a plein d'autres, il y a la nature, la conscience, l'histoire, mais ça c'est les plus clairs, m'ont amené et j'ai aperçu cette présence derrière le mystère. Et j'en ai goûté au présent pendant... Pouf ! Mais il suffit de l'avoir touché 10 secondes, À qui rions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mon corps bouillit au sein de moi. Et c'est de ça qu'on doit témoigner. C'est tout. Le Saint-Esprit fait le reste. Et c'est pour ça que notre responsabilité, c'est pas de faire des comités pour réfléchir quelle est la bonne méthode stratégique pour réfléchir avec le comité qui réfléchit à quel serait le comité. Pour faire là, et puis de mettre des sous, des machins, des trucs, des... Non. Mettons tout ce temps, cette énergie, ça ne coûte pas d'argent en plus, c'est génial, à être disponible au présent, à être ouvert à l'émerveillement pour percevoir cette présence pure, qu'elle nous bouleverse, et après, on a juste à en témoigner. Je ne peux pas te l'expliquer, je ne peux pas te dire comment c'est, mais je sais que je l'ai rencontré, je l'ai vu. C'est ce que disaient tous les gens du temps de Jésus quand ils étaient interrogés là. Ouais, c'est qui celui qui t'a guéri ? J'étais aveugle. J'en sais rien. Je sais une chose. J'étais aveugle, je vois. J'étais boiteux, je marche. J'étais rejeté, j'étais accepté. On ne m'aimait pas, j'ai été aimé. J'étais seul, je ne le suis plus. Mon cœur était vide, il a été rempli. Et ça va et ça vient, ça repart. Mais... Puis c'est tout. Et vous serez mes témoins. Et puis on avance comme ça. Alors c'est ce que je nous souhaite pour la suite de cet été. Je ne m'en vais pas, même si l'avantage est pour vous que je m'en aille, mais voilà. Seigneur, merci pour ta présence dans ce mystère qui est tellement réel, pour ces paradoxes qui font fondre nos fusibles, mais qui pourtant, c'est là. Et nous pouvons témoigner, nous t'avons rencontré. Nous ne savons presque rien de toi. Et en même temps, nous sommes tellement certains que tu es là dans cette éternité présente. Et juste à attendre que le coin du voile se soulève pour apercevoir un petit bout. Et être transporté dans ces moments où il n'y a pas de mots pour les dire, mais qui sont tellement réels, Seigneur, et qui vont au-delà de notre corps, hors de notre corps, peu importe. Mais c'est la vraie réalité. Merci de faire grandir en nous cette nostalgie de ce présent éternel, de nous conduire dans ces moments de tranquillité, d'ouvrir nos yeux, les yeux de notre cœur, par les moyens que tu veux, pour te rencontrer, pour que ces choses que l'œil n'a pas vues, qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas dire, viennent remplir nos vies et qu'on soit débordant de toi, Seigneur Dieu. Cette vie de l'esprit, de cette espérance incroyable que tu vis en nous. Merci Seigneur Dieu. Merci.